Bonjour à chacun, chacune. J'espère que vous allez bien. Il ne fait pas encore trop chaud, donc ça va, on peut encore respirer avant les grandes chaleurs qui, je crois, sont annoncées. Quand on doit porter un message, c'est toujours une question généralement qui revient. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ton peuple? Parce qu'on peut prêcher sur des sujets qu'on a à cœur, on peut prêcher... Il y a suffisamment de thèmes dans la parole pour annoncer le message, mais je crois que ce qui est important, c'est que ça réponde à un besoin de l'Église. Et comme je le fais quand je dois annoncer la parole, je disais, écoute, voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et puis, il m'est venu un moment comme une évidence, suite au message de Tony la semaine dernière sur le baptême du Saint-Esprit, de poursuivre sur ce qui me semblait une suite logique, que sont les dons spirituels ou les dons du Saint-Esprit. Alors, je ne vais pas reprendre le message de Tony. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez écouter les prédications, d'ailleurs, que ce soit celles de dimanche dernier ou en général. Hein, vous les retrouvez sur le site de l'Église, donc vous pouvez les réécouter. Et donc, je voudrais aborder, je n'ai pas la prétention de pouvoir le faire de manière exhaustive, mais peut-être remettre des bases, des fondements, des lignes directrices concernant les dons que le Saint-Esprit donne aux croyants. Alors, je voudrais déjà faire une distinction, peut-être pour certains qui découvrent ou qui ne sont pas habitués à ce sujet-là. Les dons de l'Esprit, on le verra, sont différents de ce que la Bible appelle, notamment dans Galates chapitre 5, le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, quand on se convertit, l'Esprit de Dieu vient en nous, il y a un changement de vie, une transformation. Et le caractère de Christ fait que plus nous marchons avec Dieu et plus le caractère de Christ s'imprime en nous. Et ce fruit de l'Esprit produit de l'amour, de la patience, de la paix, de la joie. Donc ça, c'est ce qui est donné aux croyants au moment de la conversion, au moment de la rencontre personnelle avec Dieu. Ici, les questions des dons du Saint-Esprit. Alors, c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours facile à aborder parce que même dans le milieu évangélique, le spectre est très, très large entre ceux qui n'y croient pas, ceux qui disent « oui, j'y crois, mais c'était plus pour notre époque », entre... À l'inverse, les excès qu'il peut y avoir avec toutes sortes de déséquilibres. Et je voudrais, voilà, au regard de quelques textes de la parole, qu'on puisse peut-être poser les choses et donner à chacun des pistes de réflexion. Et si vous voulez approfondir, vous avez suffisamment d'éléments dans la parole pour demander au Seigneur de continuer à vous éclairer. Moi, je pense qu'il n'est pas normal de limiter Dieu uniquement à l'expérience de la nouvelle naissance. Et ce serait le rabaisser à un niveau bien inférieur à ce qu'il est réellement. Il est évident que l'action puissante du Saint-Esprit ne se manifeste pas uniquement de manière invisible, même si la conversion produit des signes visibles, une vie qui est transformée par Dieu. Bien évidemment qu'il y a des signes extérieurs, mais le salut, il est interne, il est personnel. Mais la puissance et l'action puissante du Saint-Esprit se manifestent aussi dans une dimension visible, incontestable, que l'Église primitive a connue et que l'Église contemporaine est appelée aussi à expérimenter et à vivre. Je voudrais prendre en introduction, on ne va peut-être pas le lire, c'est un verset que j'ai déjà cité lors de messages peut-être par le passé, mais c'est un texte d'Éphésiens au chapitre 1er, verset 15. Alors, si vous voulez le reprendre chez vous, vous verrez, c'est une phrase qui est très longue, qui tient sur plusieurs versets. Donc, je l'ai sans entordre et en déformer le sens. Je vais juste en prendre des portions, hein, mais vous pourrez, si vous le souhaitez, vérifier chez vous que le sens du texte n'en est pas déformé parce que cette phrase aborde différents sujets. Je voudrais juste faire un focus sur un point. Ce texte, Paul écrit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, alors, les saints, il n'est pas question ici des personnes qui auraient été béatifiées ou de statut. Les saints, dans l'Écriture, ce sont les croyants rachetés par Jésus-Christ. Donc, Paul dit, « J'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, les frères et sœurs en Christ. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » C'est-à-dire que malgré la foi des Éphésiens et leur amour envers les frères et sœurs dans la foi, Paul prie pour eux afin qu'ils reçoivent une autre dimension spirituelle bien supérieure par révélation du Saint-Esprit. Et Paul continue en disant « Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. » Et là, Paul cite différents sujets qui ne sont pas le thème de mon message. Et un de ces sujets, c'est « Que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Et Paul semble le dire ici aux Éphésiens, vous avez expérimenté l'action puissante de Dieu qui a changé votre vie. J'ai entendu parler de votre foi au Seigneur, donc il ne conteste pas que ce sont des hommes, des femmes rachetés qui appartiennent à Dieu. Mais ce n'est pas fini, Dieu veut vous emmener encore plus loin. Il veut continuer à démontrer sa puissance dans votre vie. Et je prie, Paul dit, je prie pour vous, pour que votre cœur soit illuminé et que vous sachiez l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors, se manifestant avec efficacité, se manifester, j'ai regardé simplement une définition. Se manifester, c'est se révéler clairement, c'est apparaître, c'est se montrer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est par définition visible. On ne peut pas manifester quelque chose de manière invisible, ce n'est pas possible. Donc, se manifester, ça veut dire que c'est quelque chose qui est visible, forcément, et puis c'est se manifestant avec efficacité. Ça sous-entend l'efficacité que j'ai une réponse, j'ai une solution à une situation, à une attente, à un problème bien particulier. Et on peut déjà dire en préambule que les dons de l'Esprit et le Saint-Esprit n'est pas donné aux hommes, aux femmes chrétiens pour se faire plaisir ou pour... C'est pour répondre avec une manifestation efficace, c'est-à-dire face à des situations bien particulières. Et au verset 20, Paul poursuit en disant, en parlant de cette puissance, l'infinie grandeur de la puissance, il dit cette puissance, c'est cette puissance que Dieu va manifester en vous. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Puissance de vie. En ressuscitant Jésus le troisième jour, Dieu n'a pas seulement redonné le souffle de vie. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, il y a maintes et maintes témoignages de personnes qui étaient mortes cliniquement et qui sont revenues à la vie. Je ne suis pas calé en médecine, mais on sait qu'au bout de 3, 4, 5 minutes, un cerveau qui n'est pas oxygéné, les cellules se détruisent. On sait qu'un organe qui n'est plus irrigué par le sang, qui n'est plus oxygéné, très rapidement, se détruit. Mais si dans ce laps de temps très court, la vie est redonnée, alors la personne reprend vie. Mais un corps qui est mort depuis plus de 2 jours, je ne vous fais pas un dessin, mais les organes, ils ont commencé à se détruire. Ça veut dire que la puissance de vie que Dieu a manifesté en ressuscitant Christ, ce n'est pas seulement un souffle de vie qu'il a remis, c'est qu'il a recréé quelque chose, il a régénéré quelque chose en Christ. Et c'est cette même puissance que Dieu veut manifester à ses enfants. Jésus dira lui-même, dans Jean chapitre 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'on fasse des œuvres plus grandes que Jésus lui-même? Et il ajoute, « Parce que je m'en vais au Père », et 2 chapitres plus loin, au chapitre 16, il dira, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas sur vous. » Et seule la puissance du Saint-Esprit peut permettre à l'Église de Dieu de manifester cette gloire, cette puissance qu'il y a en Jésus-Christ. Dans la manifestation des dons spirituels, Christ agit lui-même de façon surnaturelle par le Saint-Esprit. Il n'est pas question d'hommes et de femmes qui ont atteint un niveau de connaissance spirituelle, un niveau de stature, d'ancienneté dans la marche avec Christ. Il n'y a rien de comparable à une manifestation humaine, si bonne soit-elle, d'un homme, d'une femme conduit par Dieu, qui marche selon Dieu. La manifestation du don spirituel a quelque chose de surnaturel. Et Paul aborde le sujet notamment dans la première épître aux Corinthiens. On ne fera pas la lecture, mais particulièrement dans les chapitres 12, 13 et 14. Donc là aussi, si vous voulez vraiment vous replonger dans ce thème-là, c'est pas les seuls passages, mais il y a vraiment une concentration dans ces trois chapitres, chapitres 12, 13 et 14 de la première épître aux Corinthiens. Alors, au chapitre 12, on en lira quelques versets un peu plus tard, Paul traite de la diversité des dons en comparaison des différents membres du corps, que ce soit le corps physique, il parle de l'œil, de la main, des membres et de cette unité que fait le corps, qu'il compare aussi à l'Église et qu'il compare aux dons, qui fait que chacun a une utilité bien spécifique et une complémentarité. Et l'œil ne peut pas dire bah « oui, mais moi je ne suis pas le pied » et la main ne peut pas dire « oui, mais moi je ne suis pas la tête ». Il y a une complémentarité, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, ça veut dire que les uns ont besoin des autres. Et elle compare ça à l'Église et également à la diversité des dons. Dans le chapitre 14, je dirais qu'on est plus sur les travaux pratiques. Dieu est un Dieu d'ordre et le Saint-Esprit également. Et Paul fait un focus vraiment sur l'exercice des dons spirituels dans la réunion publique. Et l'exercice des dons spirituels ne place pas le croyant qui exerce au-dessus des règles de bonne conduite. Et Paul reprend des choses très pratiques sur l'ordre qui doit régner lors de l'exercice des dons spirituels. Et le chrétien qui exerce n'est pas non plus au-dessus de ses frères et sœurs. Il reçoit quelque chose de particulier du Saint-Esprit, mais ce n'est pas pour autant qu'il est au-dessus des autres. Et donc, Paul l'aborde dans le chapitre 14. Il développe particulièrement le don de la diversité des langues et le don d'interprétation pour une pratique utile et efficace. Et puis, entre le chapitre 12 et le chapitre 14, il y a le chapitre 13. Alors, un chapitre bien connu qu'on entend très souvent, y compris dans des milieux qui ne sont pas forcément évangéliques, quelque chose qui revient parce que c'est le chapitre de l'amour. Chapitre bien connu qui parle de l'amour, de la charité, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, etc. Et on pourrait penser à première vue comme ça, de dire mais qu'est-ce que ça vient faire là en plein milieu de deux chapitres qui traînent de sujets de doctrine profond sur les dons spirituels et puis en plein milieu il y a un truc là sur l'amour. Eh bien non, je pense que c'est même le cœur du message, c'est le cœur, le fondement nécessaire pour l'exercice des dons spirituels. L'amour sincère et véritable est un contexte unique dans lequel les dons spirituels pourront accomplir la volonté de Dieu, c'est l'épître de Paul qui le dit, parce que si j'avais le don des langues, si j'avais la foi pour transporter les montagnes, si j'avais, donc même si j'exerce, même si j'exerce ces dons-là et que je n'ai pas l'amour, tout cela ne me sert à rien. Et donc, je trouve que ce chapitre-là, qui est central entre le chapitre 12 sur les dons spirituels et 14 sur la manière d'exercer, il est crucial parce que je peux demander, je peux aspirer à des tas de dons. Si profondément, moi, je n'ai pas l'amour des frères et sœurs, je n'ai pas l'amour des âmes qui se perdent, je n'ai pas un amour profond pour l'Église, alors la sentence, je trouve, est même terrible parce que l'apôtre Paul, bon, il dit « on est comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit ». C'est quand même pas très élogieux. Moi, j'ai essayé de trouver en langage contemporain ce que ça pourrait faire. Je pense que peut-être qu'il aurait écrit, je ne veux pas le paraphraser, mais peut-être qu'il aurait dit « c'est comme du pipeau hein, », parce que c'est un son, voilà, c'est du vent. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'amour en moi, ce n'est pas la peine d'aller chercher à exercer parce que, au fond, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne cherche pas à l'exercer pour le bien des autres, je cherche à l'exercer pour me mettre en avant. Donc, ce qui doit être le moteur déjà de la recherche des dons de l'esprit, c'est un amour profond, sincère, véritable pour les autres, pour ceux qui se perdent, pour les frères et sœurs et pour l'Église. Je vous propose qu'on fasse la lecture. On ne le lira pas en entier, mais dans 1 Corinthiens au chapitre 12. On prendra à partir du verset 1er. Paul écrit « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » C'est déjà un contexte qui pose le cadre et la nécessité. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Paul insiste, pour les chrétiens d'Éphèse et pour les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, de ne pas être ignorants de ces choses-là. Ce n'est pas pour nous apporter uniquement un enseignement théorique, parce que si Paul dit « je ne veux pas que vous soyez ignorants », il ne vient pas leur dire « voilà, je vais vous apprendre une superbe théologie, par contre, gardez ça de manière très théorique ». Non, s'il écrit « je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance », il le développe plus loin dans les chapitres que j'évoquais, c'est parce que derrière, il y a une nécessité d'apporter un enseignement pratique. Et au-delà d'acquérir des connaissances intellectuelles, c'est au contraire pour entrer dans une pratique juste et équilibrée de cette dimension spirituelle. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce verset qui pour moi met là aussi en évidence plusieurs points fondamentaux. Or, à chacun, les dons du Saint-Esprit ne sont pas réservés à une catégorie de croyants, ils ne sont pas réservés aux responsables, ils ne sont pas réservés à une élite, ils sont pour chaque croyant né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit. Amen. Alors nous verrons un peu plus loin que le Seigneur les donne, selon une utilité. Il n'appelle pas tout le monde à recevoir les mêmes dons, mais les dons en général sont pour chacun. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit, je l'évoquais tout à l'heure, la manifestation de l'Esprit, preuve encore s'il est nécessaire que le ministère du Saint-Esprit agit de manière manifeste. Il est bien question de manifestation, donc de quelque chose qui est visible. Alors parfois, on peut entendre certains chrétiens dire « Non, mais moi, je suis rempli du Saint-Esprit, c'est au fond de moi, c'est là, c'est bien au chaud, je le garde pour moi. » Je crois qu'ici, on est appelé à vivre une dimension. Bien sûr, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est pour soi, mais c'est pour que ça jaillisse à l'extérieur. Jésus disait lui-même « Des fleuves d'eau vive qui jaillissent de notre sein. » Donc de l'intérieur vers l'extérieur, ça veut dire que ça doit se manifester. Et c'est une dimension qui est nécessaire. À noter qu'il s'agit bien d'une manifestation de l'Esprit avec un E majuscule du Saint-Esprit. Il n'est pas question de manifestation émotionnelle où on pourrait se laisser envahir par des émotions qui pourraient laisser à penser que c'est une manifestation du Saint-Esprit. Il est bien question du Saint-Esprit qui agit dans la vie des croyants. Cette manifestation de l'Esprit, elle est donnée. Elle est donnée. Donc il n'y a pas à la mériter, il n'y a pas à la réclamer, il n'y a pas à la proclamer ou à s'en emparer, comme on entend parfois, je m'empare. Non, elle est donnée par la foi et le croyant doit y aspirer, on le verra aussi, et s'y attendre. Et c'est Dieu qui donne selon sa volonté. C'est Dieu qui donne selon sa volonté. Ce n'est pas une récompense. Ça répond à une aspiration et ça répond à un besoin pour l'Église. Elle est donnée pour l'utilité commune. Chapitre 14, verset 12, Paul écrit « De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Dieu ne donne pas les dons aux croyants pour qu'ils se fassent plaisir ou qu'ils se fassent mousser, mais pour l'édification de l'Église. » Et la gloire de Dieu seul. Au chapitre 14, verset 26, il dit encore que tout se fasse pour l'édification. Le but principal de tous les dons spirituels, c'est d'édifier l'Église et d'édifier le croyant. Le terme édification en grec signifie favoriser la vie spirituelle. C'est signifie également la maturité et la sainteté. Et c'est l'objectif de la manifestation des dons spirituels. Et donc, c'est l'action du Saint-Esprit qui, au moyen des dons, permet aux croyants et à l'Église de se développer et de croître spirituellement. Donc, au verset 7, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Vous pourrez lire la suite où j'évoquais la comparaison de l'Église avec le corps et de l'utilité des dons spirituels. Si vous avez lu comme moi dans votre Bible, on ne trouve pas dans la liste des dons le don de mettre les gens en transe, le don de faire perdre connaissance. Ça peut faire sourire, mais je pense que c'est important parce que ce sont des dérives qui existent encore aujourd'hui et qui, pour certains chrétiens, deviennent un obstacle à la vie de l'esprit et aux dons spirituels. Parce que ça peut faire des dégâts, ça peut déstabiliser, ça peut mettre le doute. On ne trouve pas le don de faire tomber les personnes. On ne trouve pas le don de faire tomber des paillettes d'or du plafond. Et on pourrait rallonger la liste, mais je crois que nous devons nous baser sur ce qui est écrit dans la parole. Et veillons sur ces choses-là, parce que nous pourrions nous priver de bonnes choses, parce que certains ont abusé ou ont fait croire et ont trompé par des messages et des manifestations qui sont fausses. Nous avons vu que les dons spirituels sont destinés à l'édification de l'Église. Leur manifestation doit donc amener l'Église à progresser. Progresser dans la connaissance de Dieu, progresser dans la crainte respectueuse de Dieu et la sanctification qui en découle, progresser dans la louange, dans l'adoration, dans la contemplation, dans la gloire de Dieu, et non, bien évidemment, dans la gloire de celui qui exerce le don. Et l'Église est amenée à progresser par la manifestation des dons spirituels dans le témoignage vivant et puissant pour le salut des âmes. Et avant de rentrer un peu plus en détail dans la nature de ces dons, même si on ne va pas les explorer complètement, je le disais au chapitre 12, verset 31, il écrit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Aspirez aux dons les meilleurs. D'autres traductions disent « Désirez ardemment » ou « Soyez avides des dons les meilleurs ». Donc il faut qu'il y ait une soif. Et là encore, je fais le lien avec ce que je disais sur ce chapitre 13, sur l'amour. L'amour pour les âmes qui se perdent, l'amour pour les chrétiens, l'amour pour l'Église. Plus je vais avoir cet amour et ce fardeau, entre guillemets, sur le cœur. On voyait des hommes de réveil qui, dans la prière, étaient pris par un fardeau des âmes perdues. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit peut se manifester au travers des dons. Alors, les dons les meilleurs, ça peut laisser sujet à plein d'interprétations. Comment est-ce que je peux savoir quels sont les dons les meilleurs ? Est-ce qu'il y a un classement du meilleur au moins bon ? Est-ce que, puisque la parole dit d'aspirer aux dons les meilleurs, donc moi je vais demander au Seigneur des dons spirituels, mais Seigneur, c'est quoi le meilleur ? Alors parfois on peut être tenté d'aller demander les dons, j'allais dire qu'ils sont entre guillemets, pardonnez-moi cette expression, mais un peu spectaculaires, parce que le don de miracle, le don de guérison, le don de foi, ça en jette. Ça en jette, alors certains prient ardemment pour avoir le don de guérison. Moi, je pense qu'il est nécessaire, sur l'interprétation qu'on peut faire des dons les meilleurs, c'est peut-être de se poser au moins deux questions. Meilleur pour qui ? Et meilleur dans quelles circonstances ? Le texte ne nous dit pas d'aspirer au don, au singulier, le meilleur, mais aux dons, au pluriel, les meilleurs. Ça veut dire qu'il y a, j'évoquais la manifestation efficace, ça veut dire qu'un don, si bon soit-il, qui n'est pas donné de manière opportune, n'aura pas forcément l'efficacité recherchée, parce que le don doit correspondre à une situation, doit correspondre à une personne. Donc là aussi, ça sous-entend que le don spirituel doit être exercé de manière équilibrée et non pas de manière complètement en électron libre, je fais tout et n'importe quoi parce que j'ai reçu un don spirituel. Je vais prendre un exemple parlant, on pourrait les multiplier, même si les exemples ont leurs limites. Si, allez, je prends une seringue qui est très utile pour l'infirmière, très efficace, qui peut sauver une vie si je fais une injection appropriée à un moment où la personne malade en a besoin. Si je donne cette seringue à un maçon, il va me dire, il n'est pas bien, qu'est-ce que je vais faire de cette seringue? Si je donne un outil, si bon soit-il, à quelqu'un qui n'en a pas dans l'exercice l'utilité, eh bien, cet outil devient inefficace. Alors, pardonnez-moi la comparaison, qui a peut-être ses limites, mais le Saint-Esprit semble nous dire, aspirez aux dons les meilleurs, aspirez à ce qui va être efficace pour l'Église, efficace pour le service dans lequel vous êtes appelé. Pourquoi certains dons, notamment les dons de puissance, on les retrouve généralement, ce n'est pas une règle, mais généralement chez des hommes qui, ont un, ou qui sont appelés à être évangélistes, à annoncer l'Évangile, parce que ça correspond à un ministère, à un service. Et puis pour d'autres, le don des miracles ne sera pas forcément utile, mais un autre don viendra appuyer le service. Et je pense qu'il est nécessaire, le Saint-Esprit veut nous équiper pour faire face à différentes situations. Ça signifie qu'il ne va pas forcément donner à chacun le même équipement. Donc ne soyons pas envieux d'un don qui serait donné à un frère ou une sœur. Et j'irai même plus loin, quand la parole dit « aspirer aux dons les meilleurs », eh bien, est-ce que j'aspire aux dons de manière générale pour que le Seigneur les donne pour l'utilité de l'Église ? Seigneur, s'il te plaît de donner ce don-là à un autre frère qu'à moi, à une autre sœur qu'à moi, merci Seigneur, parce que tu vas le faire pour l'édification de ton corps. Donc je ne vais pas être jaloux, je ne vais pas être frustré parce que le Saint-Esprit l'a donné à un autre alors que moi je priais pour l'avoir. Merci Seigneur, tu as jugé qu'il était bon pour ce frère-là, alors je veux me réjouir. Et je le disais, ça veut également dire qu'un don utilisé à mauvaise escient n'aura pas forcément l'efficacité souhaitée et n'atteindra pas le but. C'est un des exemples, je ne vais pas le détailler, mais que l'apôtre Paul prend dans le chapitre 14 concernant le parler en langue et l'interprétation. Si on vient dans les réunions publiques à tous parler en langue, la personne non-croyante qui vient, elle va dire « mais ils sont pas bien, qu'est-ce qui se passe là-dedans » Parce que s'il n'y a pas l'interprétation, le don n'apportera pas, ne va pas édifier. Et je le disais, même si ça n'est pas une règle ou une doctrine, Dieu donne en général les dons qui nous seront utiles dans notre service. C'est dans ce sens que nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Dans tous les cas, les dons du Saint-Esprit doivent être exercés avec sagesse et avec discernement. Alors, 9 dons, ici dans le chapitre 12, qu'on peut regrouper en 3 catégories. Hein, certains voilà, les ont catégorisés, ce n'est pas ce qu'il y a le plus important. Et j'insiste sur ce point-là, même si certains sont entre guillemets moins spectaculaires que d'autres, ils n'en sont pas moins la manifestation surnaturelle de Dieu. Et il ne peut pas y avoir de confusion entre quelque chose qu'on peut apporter de manière humaine, qui peut être une bonne chose, et la manifestation d'un don spirituel qui est une manifestation surnaturelle de l'infinie grandeur de sa puissance. Alors on trouve les dons de révélation, les dons d'inspiration, et puis les dons de puissance. J'ai noté aussi qu'il est important d'authentifier un don spirituel, notamment pour les dons d'inspiration de révélation, parce qu'ils ne seront jamais, jamais, jamais en contradiction avec le message de la parole de Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous permettre de discerner les choses, parce qu'il y a parfois beaucoup de confusion. Et un don spirituel authentique ne sera jamais en contradiction avec la parole inspirée de Dieu. Le Saint-Esprit ne se contredit pas lui-même. Et donc une parole qui pourrait être donnée ou qui pourrait vous être donnée et qui vous trouble parce que vous dites « mais je ne suis pas à l'aise parce que la Bible, elle ne dit pas ça », ne le prenez pas. Le Saint-Esprit ne se contredit pas lui-même. Donc si vous croyez que la parole est inspirée de Dieu, alors le don spirituel qui est inspiré de Dieu doit être en phase avec la parole de Dieu. Les dons de révélation, on trouve la parole de sagesse. Alors la parole de sagesse, c'est bien plus que du bon sens. C'est bien plus que du bon sens. C'est différent de la sagesse que nous pouvons avoir dans la façon de conduire notre vie. La Bible nous encourage fortement à demander la sagesse à Dieu. Et c'est bien de le faire parce que la sagesse de Dieu est bien évidemment supérieure à la sagesse des hommes et nous évite bien des bêtises et bien des erreurs. Mais la parole de sagesse, c'est autre chose que ça. C'est l'expression d'une parole qui est prononcée à un moment particulier, dans une situation spécifique, et qui fait autorité. Qui fait autorité parce que pleinement inspirée du Saint-Esprit. Je citerai deux exemples. Jésus à ses disciples qui disaient, j'ai pris le passage dans Luc chapitre 20, 21 verset 12, Jésus parle de la fin des temps et il leur dit ceci, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. La parole de sagesse, elle fait autorité. J'allais dire, elle ferme les bouches des contradicteurs. On a un autre exemple d'Étienne dans les Actes au chapitre 6, verset 10. Il est en discussion avec quelques membres assez coriaces dans la synagogue et il nous est dit qu'il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Là encore, c'est une dimension particulière qui est donnée dans une circonstance particulière à un croyant qui est dans une situation où il a vraiment besoin de la visitation de Dieu et de lui inspirer peut-être même un message qu'il n'avait pas prémédité. Bien souvent, ces choses-là n'ont pas été préparées à l'avance parce que c'est spontané, c'est l'Esprit de Dieu qui vient révéler ces choses-là dans le cœur. C'était bien autre chose qu'une connaissance même parfaite des Écritures, parce que je pense qu'Étienne, à ce moment-là, devait, avec la parole, donner du répondant à ses contradicteurs, mais c'est bien plus que ça. On ne peut pas forcément les convaincre uniquement avec les Écritures. C'était vraiment la manifestation surnaturelle du Saint-Esprit. Dans les dons de révélation, on trouve la parole de connaissance, manifestation du Saint-Esprit qui apporte une révélation concernant une personne, une circonstance, une situation particulière. Là aussi, on a de nombreux cas dans la parole. Je ne vais pas tous les citer. Il y en a un qui est assez connu, c'est Pierre devant Ananias et Saphira, dans les Actes au chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste, le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu, une partie du prix du champ ?» Mais comment à ce moment-là Pierre peut-il savoir qu'ils avaient gardé une partie du prix ? Et on le voit à maintes et maintes reprises, quand Jésus lisait dans les pensées de ses disciples ou dans les pensées des pharisiens, c'est une parole de connaissance. C'est le Saint-Esprit qui révèle dans mon cœur une situation particulière qui a besoin d'être mise à la lumière. La parole de connaissance n'est pas approximative. Ça n'est pas une déduction faite à partir d'éléments que je pourrais connaître au sujet d'une personne ou d'une situation. Donc, je commence à échafauder un petit peu intellectuellement. Ah ouais, donc, ouais, mais je commence à comprendre pourquoi il se passe ça. Et puis, à un moment, je donne une parole parce que j'ai fait des déductions. Non, la parole de connaissance, c'est quelque chose de précis que le Saint-Esprit met comme une attestation au fond du cœur. Et là encore, ce n'est pas pour condamner la personne. Si le Saint-Esprit permet de révéler ces choses-là, c'est pour mettre à la lumière, pour qu'il y ait un pardon, qu'il y ait une guérison, qu'il y ait une réconciliation. Mais cette situation, elle est explicite, elle décrit une situation précise, révélée par le Saint-Esprit. Là aussi, je vais prendre un exemple. Si ce matin, je dis, voilà, dans l'auditoire, il y a une personne qui souffre du dos, le Seigneur te guérit. Et je ne veux pas minimiser, je ne voudrais choquer personne. C'est juste pour bien comprendre le sens et le côté surnaturel. Peut-être si le Saint-Esprit met vraiment une attestation au fond de moi, à ce moment-là, elle va me donner des points particuliers qui, et la personne saura que c'est elle que le Saint-Esprit interpelle. Si intellectuellement, je sais que de toute façon, dans un auditoire de 150 ou 200 personnes, il y a forcément des personnes qui ont mal au dos parce que... Hein, mais oui, mais je vais de manière très charnelle, avec un petit peu mélange de choses spirituelles, faire croire que j'apporte une parole en disant, voilà, ce matin, il y a quelqu'un qui a mal au dos, le Seigneur te guérit. Mais ce n'est pas ça la manifestation d'un don spirituel. C'est quelque chose qui est précis et qui vient faire écho dans le cœur de la personne qui est concernée. Et puis, le troisième don dans ces dons de révélation, c'est le discernement des esprits. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle particulièrement, notamment dans les temps de la fin que nous vivons. Je pense qu'il est important pour les croyants, pour l'Église. J'ai relevé plusieurs références. Matthieu chapitre 24, verset 24. « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Matthieu chapitre 7, verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Actes chapitre 20, verset 29. Paul écrit aux anciens de l'église d'Éphèse avant de les quitter et leur dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres, comprenez, ces démons se déguisent en ministres de justice. » Et puis un cas concret, Actes chapitre 16, verset 13. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Quel beau message d'évangélisation. Rien à redire. Elle disait la vérité. Non? Je ne sais pas, j'espère que je n'ai pas endormi. Là. Je ne vous ai pas décroché. Non, bon. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et elle sortit alors même. Il est important, dans les temps de confusion, d'avoir le discernement des esprits. Ce don donne la capacité de discerner si une manifestation est réellement du Saint-Esprit ou si elle ne l'est pas. Et ce don est indispensable pour démasquer les ruses du malin qui tente et qui tentera de plus en plus de semer le trouble dans l'Église de Jésus-Christ. Et ça n'est pas par des capacités intellectuelles, par des capacités humaines, par des approches psychologiques ou autres, qu'on le démasquera. Il se déguise en ange de lumière. Donc c'est par le Saint-Esprit et par le don de discernement. Les dons d'inspiration, la prophétie. La prophétie est une parole inspirée qui apporte un avertissement, une exhortation, une consolation. Ça peut être, mais ce n'est pas nécessairement une parole qui annonce des choses à venir. La prophétie dans l'Ancien Testament était souvent... D'ailleurs, il y avait une petite différence. Dans l'Ancien Testament, le prophète parlait de la part de Dieu. C'est-à-dire que Dieu donnait les paroles et le prophète disait « Ainsi parle l'Éternel » et c'était la voix de Dieu qui se manifestait. Et bien évidemment, souvent, c'était pour annoncer des choses à venir. Le prophète dans le Nouveau Testament et la prophétie, le prophète ne se substitue pas à Dieu. Il est inspiré par le Saint-Esprit pour donner une parole et je pense qu'il n'est pas juste de dire « Ainsi parle l'Éternel » parce que ça veut dire que je me mettrai à la place de Dieu, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Je pense qu'on reste des humains, des hommes, des femmes, des croyants, des chrétiens qui, inspirés par le Saint-Esprit, vont donner une parole prophétique, mais qui n'est pas Dieu qui parle lui-même. J'espère que je suis clair dans cette explication. Le but du don de prophétie, c'est d'édifier, c'est d'encourager, mais c'est aussi de redresser, de mettre en garde. Et comme pour les autres dons, je le disais, c'est une manifestation surnaturelle pour répondre à une situation bien précise. Et le chapitre 14, verset 24, concernant la prophétie, et Robert l'évoquait ce matin, je crois que c'était dans sa prière, s'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu et les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est donc une attestation puissante du Saint-Esprit, là encore, qui va descendre au plus profond de la personne concernée ou d'un groupe ou d'une église qui reçoit cette parole prophétique. La diversité des langues et l'interprétation des langues, c'est assez difficile de dissocier les deux. Ce thème-là, je le disais, est développé dans le chapitre 14, je ne vais pas m'y attarder ce matin, mais le parler en langue est avant toute chose la manifestation d'une personne sous l'influence directe du Saint-Esprit. Là encore, il n'est pas question de manifestation émotionnelle, mais le chrétien rempli de l'Esprit-Saint s'exprime dans une langue qu'il n'a pas apprise et qu'il ne connaît pas. Je ne vais pas évoquer et répéter ce qu'évoquait Tony dimanche dernier concernant le fait que le parler en langue est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Vous pouvez balayer notamment le livre des Actes des Apôtres, que ce soit depuis la Pentecôte jusque différentes situations. Le baptême du Saint-Esprit se manifeste par un signe visible qui est le parler en langue. Mais ici, il est question d'un don particulier, le don des langues, la diversité des langues. Et la Bible nous dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alors, le parler en langue est décrit comme un don du Saint-Esprit avec deux buts principaux. Le croyant lui-même qui peut parler en langue dans son culte personnel et ainsi édifier sa propre vie spirituellement, parce que notre intelligence, à un moment, quand on est dans la présence de Dieu, notre intelligence, nos mots peuvent devenir insuffisants et le Saint-Esprit vient insuffler en nous quelque chose de nouveau qui fait que notre esprit est en communion avec Dieu, et que ce soit dans la louange, que ce soit dans l'intercession, il suscite un langage particulier que Dieu seul peut comprendre. Lorsque le parler en langue est exercé en réunion publique, nous avons vu qu'il doit être accompagné du don d'interprétation de manière à ce que les personnes présentes soient édifiées. Donc là aussi, le chrétien s'adresse à Dieu dans une langue qui n'est pas connue des hommes, ou parfois qu'il est, parce que ça peut être un moyen aussi que Dieu va utiliser pour toucher particulièrement une personne, mais pour que ce don soit efficace pour la communauté, alors il faut qu'il y ait l'interprétation de ce qui est annoncé. Je me souviens de ce témoignage qui remonte à de nombreuses années. J'en ai plus tous les points précis, mais je crois que c'était dans une convention, une conférence mondiale ou internationale. Et puis, à un moment, un frère a poussé un grand cri et a donné une parole, je crois qu'il était une parole en langue, et donc qui a un petit peu interpellé les gens. Et une personne qui était dans l'auditoire, qui connaissait, je crois que c'était un dialecte particulier, a dit, voilà, ce qui a été donné dans ce dialecte-là, le cri qui a été poussé, c'est le cri que pousse le chef du village quand il a quelque chose d'important à dire. Et la personne qui avait exprimé ce don, bien évidemment, ne connaissait absolument pas. Par contre, c'était donné dans une langue, un dialecte connu des hommes, mais ce qui est sûr, c'est que dans l'auditoire, il y avait probablement une personne qui connaissait ce dialecte, et le Saint-Esprit utilisait ce don pour toucher son cœur. La dernière catégorie, le don d'opérer des miracles, les dons dits de puissance, parce qu'ils ont un côté peut-être plus visible ou entre guillemets, même si je n'aime pas ce terme spectaculaire, parce que ça, c'est quelque chose qui frappe le regard, et qui, je le disais, sont parfois la convoitise de ceux qui recherchent leur propre gloire, parce que ça fait bien, don de puissance, attention, j'arrive. Non, ne soyons pas de ceux-là. Le don d'opérer des miracles, je pense que je ne vais pas m'éterniser dessus, le don d'opérer des miracles, l'eau changée en vin, la multiplication des pains, la tempête apaisée. Là encore, c'est l'intervention surnaturel de Dieu qui bouleverse le cours normal de la nature. Et je crois qu'il est important aussi, j'évoquais tout à l'heure, voilà, parfois on voit des tas de choses, des paillettes d'or, de l'huile qui coule dans les mains. Vous remarquerez dans la parole que le don des miracles n'est jamais intervenu sans qu'il y ait, je l'évoquais, un besoin en face. La manifestation efficace doit correspondre à une situation particulière, notamment dans le cadre des miracles, où humainement il n'y a aucune solution, c'est l'impasse, et là la main de Dieu agit de manière extraordinaire pour débloquer la situation. Mais vous ne trouverez pas, ou alors je suis passé à côté, dites-le-moi si vous le trouvez, un endroit où il a été fait un miracle par Jésus ou par un disciple ou par un apôtre, juste comme ça, pour faire bien. Mais non. Parce qu'à ce moment-là, ça glorifie l'homme, mais ça ne glorifie pas Dieu. Quand la porte de la prison s'est ouverte miraculeusement, quand les chaînes sont tombées, c'était parce qu'il fallait qu'il y ait une libération pour continuer de proclamer l'Évangile. Quand la tempête a été apaisée, c'est parce que le Seigneur voulait rassurer et sauver ses disciples de la noyade. Quand il a multiplié les pains, c'est parce qu'il y avait une foule qui avait besoin d'être assasiée. Et multipliez les exemples et vous verrez que les miracles ne se manifestent jamais juste comme ça pour faire bien ou pour en jeter plein la vue. Le but des miracles est d'attester la suprématie et la toute-puissance du Dieu créateur au-dessus même de la création et des éléments. Et je trouve ça extraordinaire parce que Dieu qui est le créateur de toutes choses, bien évidemment, il est au-dessus de sa création. Il maîtrise les éléments naturels. Et donc le cours des choses, et la tempête en est un exemple. Qui a créé le vent? Qui a créé les flots? C'est le Créateur. Mais il est au-dessus de sa création. Et la manifestation miraculeuse atteste de cette toute-puissance de Dieu. Le don des guérisons, là aussi les exemples sont tellement nombreux, je vais juste faire quelques remarques. Le terme utilisé est au pluriel. Ce n'est pas le don de guérison au singulier, le don des guérisons. Alors, y aurait-il différentes guérisons, des petites, des grandes, des moyennes? Moi, je pense qu'il n'y a qu'une guérison. On est guéri ou on n'est pas guéri. Il n'y a qu'une guérison, mais il y a différents besoins de guérison. Et l'interprétation que j'en fais sur le don des guérisons, c'est que Dieu veut guérir physiquement, Dieu veut guérir moralement, Dieu veut guérir psychiquement, parce que nous sommes un être, l'esprit, l'âme et le corps, et que chacune de nos composantes ont besoin de guérison. Et le don des guérisons se manifeste de manière différente, soit par des choses qui sont visibles, le boiteux qui marche, l'aveugle qui recouvre la vue, soit par des choses qui sont moins visibles, parce qu'elles sont internes, mais elles sont comme un mal qui ronge, et Dieu veut et Dieu guérit aussi, et le don des guérisons permet aussi cette guérison-là. Et puis la particularité du don des guérisons, c'est le résultat instantané et incontestable de la guérison. À la différence de la guérison divine, qui peut être accordée par Dieu en réponse à la prière, mais sur un laps de temps plus long. Le chrétien, la chrétienne qui souffre, qui passe par une maladie, et qui se tient dans la prière, qui prie, l'Église prie, et puis il se passe du temps, et puis Dieu permet la guérison. Et ça ne remet pas en cause le fait que ce soit une guérison divine. Mais ça se fait sur un laps de temps, plus ou moins long. Le don des guérisons est quelque chose d'instantané. La Bible dit « Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris ». On le voit dans les signes, dans Jésus lui-même qui parcourait la terre. Chaque fois qu'il est question d'une guérison, la guérison, elle était quasi instantanée. Ou alors, il a dit à l'aveugle d'aller se laver au réservoir et qui serait, ou au lépreux d'aller se montrer au sacrificateur. Mais la guérison, elle n'est pas intervenue 6 mois après ou 1 an après. Elle a été instantanée. Et le don des guérisons permet un résultat, une guérison instantanée, incontestable. Et puis, le don de la foi. Là aussi, il ne s'agit pas de la foi qui sauve, ni de la foi qui consiste à croire en l'existence de Dieu, puisque tous les croyants ont la foi. Enfin, j'espérais, parce que sinon, on n'est plus croyants. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Donc, il ne s'agit pas de cette foi-là, mais d'une foi particulière, surnaturelle, là aussi accordée par le Saint-Esprit, et nous poussant à croire avec certitude que Dieu est capable d'accomplir, à un moment particulier, un acte extraordinaire ou miraculeux. On ne sera pas forcément acteur de cette, ou même témoin de cette chose-là. Ça peut être un don qui est reçu à quelqu'un qui a vraiment un homme, une femme de prière, qui va dans le secret passer du temps et qui, à un moment, va recevoir au fond de son cœur une certitude sur une situation en disant je sais qu'il va se passer ça. Parce que Dieu met la foi dans le cœur à ce moment-là pour croire cette chose-là. Alors la foi, elle peut se manifester de manière visible, mais ça peut être aussi de manière plus secrète. Bien évidemment, le don de la foi peut être associé au don des miracles et au don des guérisons, mais pas nécessairement. Et je citerai cet exemple connu de beaucoup de Georges Müller, pour ceux qui connaissent un peu la vie de Georges Müller, qui a vécu au XIXe siècle. Georges Müller n'avait aucun moyen financier. Étant jeune, c'était un rebelle, c'était un alcoolique, et il a été touché par la grâce de Dieu, une vie transformée. Et puis, il a commencé à avoir un fardeau, notamment pour les orphelins. Et il a eu à cœur d'ouvrir des orphelinats. Aucun moyen financier. Et il s'est refusé de demander le moindre argent à qui que ce soit, sinon à Dieu. Et chaque fois qu'il a eu besoin financier, jamais il n'en a parlé à un auditoire, jamais il n'en a parlé à des chrétiens. Il s'adresse à Dieu pour que Dieu pourvoie. Et Dieu pourvoyait. Mais c'était un homme de foi, et plus il recevait, plus il donnait. Et il ne regardait pas cela, et il savait que Dieu allait pourvoir. Il a accueilli jusqu'à 2000 enfants, il a soutenu personnellement plusieurs dizaines de missionnaires, il a ouvert des écoles, des dizaines et des dizaines d'écoles, sans demander jamais le moindre centime à qui que ce soit, parce qu'il s'attendait à la main de Dieu. Et cette expérience extraordinaire qu'un jour il a vécue, où les moyens manquaient, il n'y avait plus de nourriture, les enfants étaient devant leur bol vide au moment du repas, et Georges Müller prie comme avant chaque repas. Et il prie en remerciant Dieu de ce qu'il voudra bien leur donner à manger. Le don de la foi. Le don de la foi. Il n'a pas fait des statistiques, il n'a pas fait des probabilités en se disant, alors, si je calcule bien, il peut se passer... Non. Les bols étaient vides, les enfants étaient là à table, et dans cette foi que Dieu avait déposée en lui, merci Seigneur pour ce que tu m'as donné à manger. Dans les minutes qui suivaient, le pain frais était livré, le lait était livré de manière extraordinaire. Oh, il n'a pas fait de grandes gesticulations, il n'a pas fait de grandes proclamations, il a simplement exercé le don de la foi pour la gloire et l'honneur de son Dieu. Amen. Alors, je vais m'arrêter là. Dieu aurait-il changé pour que nous ne soyons plus les témoins de ces manifestations? Là aussi, ça pourrait être un sujet à lui seul. Moi, je reste persuadé, et je le serai jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, que Dieu n'a pas changé. Et que si nous ne voyons pas ces choses arriver, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas que, ouais, mais c'est plus pareil, c'était... Non. Dieu est le même, il n'a pas changé. Alors, que se passe-t-il? Je pense que j'ai besoin de me réveiller. J'ai besoin de revenir à l'essentiel. Nous avons besoin d'aspirer profondément après ces choses-là, mais en passant, parce que ça ne peut être que comme ça, par l'humilité, par la repentance, par la conviction de péché, par l'amour profond que Dieu veut nous donner pour les frères, pour les sœurs. Sommes-nous capables encore de pleurer pour ceux qui se perdent, pour ceux qui abandonnent la foi? Nous sommes dans une insouciance extraordinaire. Et je le dis avec beaucoup d'amour, vous me connaissez quand je dis ça, je me le dis à moi d'abord. Nous sommes dans une insouciance extraordinaire. Sommes-nous capables de nous tenir devant Dieu dans les pleurs pour nos proches qui se perdent, pour nos frères et sœurs qui ont abandonné la foi? Alors, plusieurs causes possibles. L'ignorance, peut-être certains ignorent ignore ses dons spirituels. J'ose espérer que ce n'est pas le cas ce matin, mais Paul disait « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Il peut y avoir de l'incrédulité. On n'y croit plus. On a baissé les bras, on a essayé, on a cherché, peut-être de manière humaine, peut-être de manière déséquilibrée. On a été blessé par des mauvaises expériences. Alors on a rejeté tout ça, on dit « Moi, j'y crois pas, c'est pas vrai. Ça marche plus. » Jésus disait « Voici les signes qui accompagneront qui ? Ceux qui auront cru. » On peut aller annoncer l'Évangile. Moi, ce texte-là, il m'impressionne toujours. Je crois que c'est dans Marc. C'est d'ailleurs intéressant, je vais pas le développer parce que je ne veux pas traîner. Vous savez, les dernières paroles qu'une personne donne avant de quitter la terre, généralement, c'est pas des choses superficielles. Et vous regarderez notamment sur les évangiles Matthieu, Marc et Luc, les dernières paroles de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des témoignages de trois témoins différents qui ne rapportent pas tout à fait la même chose, mais qui parlent d'être témoins, qui parlent d'être remplis du Saint-Esprit. Et Marc écrit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc c'est Jésus qui parle, bien sûr. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais je me suis dit, mais c'est bizarre. Ça veut donc dire que certains vont aller annoncer l'Évangile, mais sans y croire. Puisqu'il est question ici de ceux qui y croient. Donc ça veut dire qu'il y en a d'autres qui n'y croient pas. Et bien, si on n'y croit pas, ça ne risque pas d'arriver. Ça ne risque pas d'arriver. Alors je voudrais là aussi faire une toute petite parenthèse qui n'est pas dans mes notes, mais ça ne veut pas dire que nous sommes tous appelés à imposer les mains n'importe comment, à la va-vite, sans discernement. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous appelés à chasser des démons. Ça ne veut pas dire que nous saisirons tous des serpents. Là aussi, on a vu des choses complètement déséquilibrées, des soi-disant pasteurs essayer d'attraper des serpents venimeux et puis qui se font mordre et qui meurent parce qu'ils n'ont pas compris, là encore, que s'ils saisiront des serpents, c'est pas je vais m'amuser à attraper des serpents. C'est si un serpent vient à m'attaquer, ben, il ne me fera pas de mal. Donc là encore, il n'est question que d'équilibre. Et je vais faire cette petite parenthèse, sans rentrer dans des polémiques, mais je pense que ça rentre dans le cadre de ce message. Avec des mouvements actuels, et je pense notamment à ce mouvement dit de la dernière réforme, « Last Reformation ». Moi, je n'apporte aucun jugement, ni sur la personne qui est à la tête de ce mouvement, ni sur des personnes qui pourraient y être. Je n'ai pas à juger. Ce que je veux juste mettre en lumière au regard de la parole. Je peux recevoir, à titre personnel, un don de puissance manifeste de guérison, de délivrance de démons. Ce n'est pas pour ça que je dois inciter tout le monde à le faire, parce que ce que Dieu m'a donné, il ne va pas forcément le donner à tout le monde. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui doit... Et ça ne veut pas dire pour autant que le don n'est pas authentique. Moi, je ne veux pas apporter quelque jugement que ce soit, ni sur ce mouvement, ni sur d'autres. Mais la Bible est claire, et nous l'avons vu, et reprenez les Écritures, ce que l'un reçoit, l'autre ne le reçoit pas forcément. Donc il n'est pas juste, au regard de la parole, de penser parce que moi je l'ai reçu et que je l'exerce, même si c'est de manière authentique, que tout le monde est appelé à le faire et à le recevoir. Et puis il y a une chose qui est la colonne vertébrale aussi des dons de l'Esprit, c'est l'édification de l'Église, c'est le corps de Christ. Et tout se fait dans le bon ordre, tout se fait dans le cadre de l'Église locale. Pour moi, il n'est pas question de l'Église universelle, parce que certains diraient « oui, mais c'est l'Église au sens large ». Vous savez, les chrétiens, bien sûr que les chrétiens ne sont pas tous ici. Les chrétiens rennais ne sont pas tous réunis ici, merci Seigneur, heureusement. Mais l'exercice des dons spirituels, pour moi, se fait avant tout pour édifier l'Église, le corps de Christ. Et c'est ce que Paul explique dans le chapitre 12 des Corinthiens, quand il parle du corps, la main, le pied, l'œil, la jambe, les membres, ils ne sont pas disloqués aux quatre coins de la ville. Les membres, ils sont unis et rassemblés. Et je pense que l'exercice des dons spirituels, même si on peut être amené dans une discussion, dans un témoignage, à donner une parole inspirée du Saint-Esprit, bien sûr, mais avant toute chose, ils doivent être exercés pour l'édification du corps de Christ, pour l'Église. Alors, les raisons possibles, l'ignorance, l'incrédulité, les mauvaises motivations. Seigneur, donne-moi le don des guérisons, le don des miracles. Seigneur, donne-moi, j'ai envie de ça. Cherchons quelles sont nos profondes motivations. Veut-on que ce soit la gloire de Dieu ? Ou veut-on que ce soit la gloire des hommes ? Ou même la renommée d'une église ? Parce qu'on voudrait que notre église, elle soit meilleure que les autres. Oh, dans notre église, viens dans notre église. On exerce les dons spirituels. Non, non, non. La gloire de Dieu se manifeste. On ne le fait pas pour mettre en avant une église, une communauté. Et je pense que ça peut être des mauvaises motivations. Une vie qui n'est pas réellement baptisée dans le Saint-Esprit, une vie qui est dans le compromis, qui ne marche pas dans la sanctification demandée par le Seigneur. Et puis un manque de soif, je le partageais mardi soir à la réunion de prière. Je pense que la soif a quitté beaucoup de cœurs, où elle n'est plus aussi intense qu'elle devrait être. Aspire-t-on vraiment, a-t-on cette soif de dire « Seigneur, j'en veux plus de toi, je ne veux pas me satisfaire ni des expériences du passé, ni de l'expérience de conversion, je veux plus de toi, je veux la manifestation de l'Esprit dans ma vie. » Que le Seigneur nous éclaire sur ces points-là et nous donne de vivre cette dimension des dons spirituels dans l'équilibre et pour la gloire de son nom. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, je te bénis, parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu qui n'a pas changé. Tu es le même, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu es de toute éternité. Et je te rends grâce pour ta parole, Seigneur, je te prie qu'elle éclaire nos cœurs, qu'elle vivifie nos cœurs, qu'elle vienne nous secouer, nous réveiller, Seigneur, de nos endormissements, qu'elle vienne mettre à la lumière ce qui, dans nos vies, a pris la place qui te revient, Seigneur. Merci d'accompagner, Seigneur, ta parole par des révélations dans nos vies, de ce que tu attends de chacun de nous, de ce que tu attends au sein de cette communauté. Tu veux manifester ta gloire. Tu veux manifester ta gloire. Tu veux, Seigneur, encore dans ces temps où nous pouvons encore annoncer l'Évangile, tu veux te glorifier. Alors que tout cela, Seigneur, nous le recherchions pour ta seule gloire, parce que toi seul es digne d'être loué. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen.